vous suit.
Voici les titres du journal.
Soirée d'hier agitée du côté de Vevey. Le législatif communal y tenait sa séance de rentrée après la pause estivale. Au menu notamment l'entretien du port de plaisance et l'insécurité à la gare. On y revient dans un instant en compagnie de Thierry Nicolet. Nouveau curé de Montée, l'abbé Jérôme Oswirt a conscience que la pratique religieuse est à marée basse. Pour y remédier, il songe à créer des moments d'échange entre les fidèles. On l'entendra tout à l'heure. Trois comédiens vaudois se lancent dans la production. Ils créent une comédie musicale intitulée « Mistinguette » en haut de l'affiche. Un pari osé, alors qu'il est difficile de se faire une place sur la scène romande. Le nombre d'infections au Covid-19 devrait reprendre l'ascenseur au cours de l'automne et l'hiver à venir, mais l'Office fédéral de la santé publique n'en effectue pas moins des recommandations, disons, modérées. Du sport aussi dans cette édition, football, le FC Aigle fête ses 125 ans d'existence cette année et pour l'occasion, les différentes formations du club disputeront tous leurs matchs de championnat à domicile ce week-end.
C'est un ciel changeant qui nous est prévu par Météo Suisse pour cet après-midi. Ciel changeant également pour demain avant de retrouver un soleil plus franc pour dimanche. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Le législatif vevezan effectuait sa rentrée hier soir au terme de la pause estivale. Deux points figuraient à l'ordre du jour et ils ont retenu notre attention. Une demande de crédit d'investissement pour le port de plaisance et débarcadère Vevey-la-Tour-de-Paix ainsi que la prise en considération d'un postulat intitulé « Insécurité à la gare ». Impunité ou réactivité. Et vous avez suivi ces développements, Thierry Nicolet.
Exactement, Yves, et ces deux sujets ont été traités de manière assez inégale. L'un des deux points est passé comme une lettre à la poste et a été accepté par une très large majorité du Conseil, tandis que le second a attisé une certaine tension entre les différents partis.
Alors on commence, Thierry, par la demande de crédit d'investissement.
Le Conseil communal vevezan s'est prononcé hier soir en faveur de cette demande de crédit de 1 605 000 francs, un montant qui servira à financer l'entretien du port de plaisance et du débarcadère Vevey-la-Tour-de-Paix. Les travaux commenceront dès le mois d'octobre et devraient durer 5 à 6 mois, soit jusqu'à mars 2023.
Et en quoi consisteront ces travaux précisément ?
La première étape consistera à remplacer les pontons actuels du débarcadère, largement arrivés en fin de vie. L'installation électrique, dont la vétusté est devenue dangereuse pour les utilisateurs du port, sera remise aux normes en vigueur. Le garde-port sera quant à lui équipé d'une embarcation de maintenance. Enfin, l'éclairage sera complètement repensé. Exit les lampadaires LED situés à 4,50 m du sol, place à des points lumineux plus nombreux mais d'une puissance nettement plus faible, n'éclairant que les points de passage. Cela dans un objectif de lutter contre la pollution lumineuse, autant aérienne qu'aquatique.
Mais qu'en sera-t-il de la fameuse passerelle d'accès au débarcadère, hein, cette passerelle qui avait été remplacée par une structure provisoire au printemps dernier?
Eh bien, elle fera son grand retour. Installée en 1933, elle avait dû être retirée en raison de son état trop vieillissant. Différentes variantes étaient proposées, soit restaurer complètement la passerelle historique, soit en construire une nouvelle, soit laisser en place l'ouvrage d'accès actuellement en place.
Et quelle variante a été choisie pour ce projet, Thierry?
Et c'est la première, Yves. La passerelle sera entièrement sablée en usine, traitée contre la corrosion et repeinte ces prochains mois. Une opération qui a un coût quand même, 900 000 francs, soit plus de la moitié du montant total des travaux. Si ce prix a fait grincer les dents quelques élus, la demande de crédit a été très largement approuvée par le Conseil.
Et vous le disiez précédemment, Thierry, le second point à l'ordre du jour a attisé plus de tensions.
L'élu PLR Anaïa Martino demandait la prise en considération de son postulat intitulé « Insécurité à la gare, impunité ou réactivité ». Postulat qui demandait à la municipalité de tout mettre en œuvre afin de lutter contre les problèmes de deal, l'interpellation verbale et autres regards mal placés dans le secteur de la gare, notamment via l'installation de caméras de surveillance afin de tranquilliser la population.
On peut imaginer que les discussions dureraient sur un sujet aussi sensible.
Effectivement, Yves, elles ont été longues. Les élus des partis de gauche s'en sont violemment pris à ce postulat, argumentant que l'on ne pouvait pas surveiller la population en tout temps. De plus, la pose de caméra ne ferait que déplacer le problème, ont-ils ajouté. À l'heure du verdict, le résultat fut très serré. 35 voix pour, 27 contre et une quinzaine d'abstentions. La balle est désormais dans le camp de la municipalité qui devra proposer des solutions au Conseil pour rendre la zone de la gare plus sécurisante.
Merci Thierry Nicolet pour toutes ces précisions. Le PLR Valais demande une baisse d'impôts pour redonner du pouvoir d'achat. Depuis plusieurs années, ce parti réclame une révision de la loi sur l'imposition des personnes physiques, explique-t-il dans un communiqué, et d'insister sur le fait que selon lui, la majorité des ménages est pénalisée par une imposition basée sur un modèle de société dépassé. Le PLR Valais estime que les couples avec ou sans enfants dont les deux parents travaillent et les personnes vivant seules payent trop d'impôts. Il va ainsi déposer au Grand Conseil la semaine prochaine une motion afin de baisser l'imposition des personnes physiques au niveau cantonal afin d'atténuer les conséquences de la hausse des prix et de limiter la baisse du pouvoir d'achat des Valaisannes et des Valaisans.
On revient à l'actualité régionale. régionale Yves, c'est une première historique. Depuis le début du mois, les paroisses de Montet, Chauet, Colombey et Murat sont gérées par le même curé.
En poste depuis 2008 à Colombey et Murat, l'abbé Jérôme Osvirt a été nommé dans le chef-lieu du district. Il s'occupe désormais d'un territoire comprenant 20 000 catholiques, dont 14 000 uniquement à Montet. Davantage de fidèles, mais la pratique religieuse est moins assidue. Le curé Osvirt en a conscience.
La pratique religieuse, elle a énormément baissé. Pour les plus anciens qui ont connu les années 60, 70, c'était un monde où il y avait un très grand conformisme social. Tout le monde allait à la messe. Il y avait même des sanctions. Les enseignants surveillaient leurs élèves et les sanctionnaient s'ils n'étaient pas présents à la messe dominicale. Alors aujourd'hui, évidemment, cela a beaucoup changé. Donc je découvre maintenant la pratique montésane. Ben voilà, elle est comme partout en Valais, elle a énormément baissé. On est aujourd'hui, je pense, entre 3 et 5% de gens qui pratiquent, ce qui est faible. Nous, on ne vise pas à gagner une élection, d'être 51%. Moi, si j'ai 3 à 5% qui sont le sel de la terre, on change déjà la société.
Voilà, on se faisait tirer l'oreille, hein, si on n'allait pas à la messe. Alors, une pratique religieuse qui baisse et des affluences au moyen d'âge toujours plus élevées, deux situations qui interpellent l'abbé Jérôme Osvirt.
Le système doit changer. Chez moi, à Colombey-Murat, j'ai la chance que la pratique a beaucoup augmenté. Quand je suis arrivé curé de Colombey-Murat en 2008, j'ai mis en place l'apéro systématique après la messe, ce qui est déjà quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on a soif, bien sûr, de foi, de sens, mais aussi de liens sociaux qui sont des vrais liens, pas des liens virtuels. Pour moi, l'apéritif que je vais mettre en place à Montet après chaque messe, c'est quelque chose de très important. C'est pas une histoire pour boire, c'est un prétexte pour se parler, pour être en relation. Je pense que si nos communautés sont sympas, si les familles ont leur place, s'il y a de la beauté instrumentale, vocale, je pense qu'on peut avoir du chiffre. Mais je le redis, notre but premier, c'est assez paradoxal, à la fois le chiffre, c'est très bien si on fait du chiffre, mais notre but premier n'est pas de faire du chiffre. Notre but premier, c'est d'être fidèle à notre mission et de faire de la qualité.
Le message est retenu. Des propos recueillis par Justin Gray à Montet, le curé Osvirt souhaite en outre que la paroisse, dans les chiffres rouges depuis plusieurs années, retrouve une certaine santé financière. Il entend également mener à bien l'ambitieux projet de rénovation de l'église, estimé à 2 millions de francs. Notez que vous retrouvez l'interview intégrale de l'abbé Jérôme Osvirt sur notre site internet radiochablais.ch.
Elle s'appelle Miss Tinguette en haut de l'affiche.
Elle, c'est une comédie musicale originale dont la première se tient demain à Corpato dans le canton de Fribourg. Il s'agit du résultat du travail de trois comédiens vaudois, Jenny Laurent, Philippe Rezende et Fabrice Guillaume, qui ont voulu se lancer dans la production. À Paris osé, puisqu'il n'est pas facile de se faire une place sur la scène romande et de monter un tel projet. Écoutez Jenny Laurent, directrice musicale du spectacle.
On a l'impression qu'on doit faire un peu les choses à l'envers. En fait, pour obtenir de l'argent, il faut avoir les gens, il faut avoir la salle de spectacle, il faut avoir la tournée, si on peut prétendre à recevoir de l'argent. Sauf que ben, si tu as tout ça et qu'on n'arrive pas à avoir l'argent, en fait, derrière, on doit annuler ce qu'on a. Enfin, c'est vraiment pour l'instant un système qui, pour moi, qui est un peu dysfonctionnant à certains moments. Ça nous vaut aussi des grosses prises de tête, des grosses prises de risques, des insomnies, des stress. Donc là, on est dans la partie super, on est dans la création, et dans deux semaines, on sera dans la partie oh, alléluia, c'est fait. Mais franchement, on est passé quand même par des moments hyper intenses, et puis on se disait, on était quatre pour faire cette admin. Mais en fait, on aurait dû être 15, parce que c'est une montagne de travail qui nous prenait un temps de fou. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'améliorations en Suisse, en tout cas, pour que le domaine du spectacle soit quand même plus facile à monter.
Malgré les difficultés, la création du trio avance déjà plusieurs dates en Suisse romande et espère pouvoir prochainement en ajouter en Valais ou ailleurs. Fabrice Guillaume, co-metteur en scène.
On espère qu'avec tout ce qu'on a réuni, on va pouvoir en effet aller dans la Suisse romande, peut-être en effet passer les frontières parce que, alors à mon sens, ce spectacle mérite parce qu'en effet, il peut parler à plein de monde, notamment la France et d'autres endroits où on va retrouver parce que dans le spectacle, on retrouve le Casino de Paris, on va retrouver les Folies Bergères, on va retrouver enfin, des endroits typiques où Miss Tinguette est passée, où Maurice est passé aussi. Et c'est de se dire que, bah oui, ce spectacle a les reins pour aller au-delà des frontières, au-delà des mers, j'aurais envie de dire.
Les informations quant à la billetterie se trouvent sur le site internet du spectacle Miss Tinguette en haut de l'affiche. C'était un sujet signé Valérie Blom. La rentrée scolaire vaudoise est marquée par des retards dans la livraison de matériel scolaire. Alors que le principal syndicat des enseignants se montre très critique et ce depuis plusieurs années, le canton dédramatise évoquant des petits couacs liés à un changement informatique à la direction des achats et de la logistique qui gère commandes et livraisons ainsi qu'à la pénurie de papier. On passe à l'actualité nationale. Un Suisse de 57 ans a abattu sa compagne, âgée de 54 ans, avant de se suicider hier soir à Elzao, près de Winterthur, dans le canton de Zurich. Il avait également blessé grièvement par balle un membre de la famille, âgé de 36 ans. La police cantonale fribourgeoise a séquestré au mois de septembre trois trottinettes qui dépassaient largement la vitesse autorisée. L'une d'elles était même équipée d'un dispositif permettant la permutation de vitesse de 20 km/h jusqu'à 148 km/h selon les mesures de la police. Les trois engins ont été séquestrés et les conducteurs dénoncés à l'autorité compétente.
Le nombre d'infections au Covid-19 devrait reprendre l'ascenseur cet automne et cet hiver.
Mais sans commune mesure avec la situation des deux dernières années, l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, a formulé ce matin à Berne des recommandations modérées. Seules les personnes très âgées et présentant des maladies préexistantes sont appelées à se faire injecter un vaccin de rappel. Pour le commun de la population, c'est-à-dire chacun aura pour mission de décider si une vaccination de rappel est judicieuse. La vice-directrice de l'OFSP, Linda Narté.
La situation n'est plus la même comme c'était l'année passée ou l'année d'avant. On a une situation où la population à 98% ont eu contact avec le virus, soit sont vaccinés, soit ont eu une infection. On n'a pas besoin d'avoir sans autre risque des mesures des autorités. On dit que chaque personne peut évaluer si elle a un risque peut-être élevé ou si elle a des contacts avec des personnes à risque. Et dans ces situations, on peut se faire vacciner, mais ce n'est pas nécessaire comme c'était l'année passée.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Tout type de vaccins sont proposés, les vaccins utilisés jusqu'à présent, comme les nouveaux vaccins bivalents adaptés à Omicron BA1. Les inconnus ont dynamité un bancomat au petit matin ce vendredi dans un grand centre commercial de Spreitenbach dans le canton d'Argovie, à une dizaine de kilomètres de Zurich. Ils ont sévi peu avant 4 heures après avoir forcé l'entrée des lieux. Ils sont en fuite et on ignore encore s'ils ont réussi à emporter de l'argent et combien.
Le roi Charles III doit s'adresser aujourd'hui aux Britanniques.
Il devra répondre dans l'un des premiers actes publics de son règne à l'immense émotion suscitée par la mort d'Elisabeth II au-delà des frontières de son royaume. Une période de deuil national s'ouvre au Royaume-Uni jusqu'aux funérailles dans une dizaine de jours de la souveraine qui s'est éteinte paisiblement hier à 96 ans dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Des manifestations sportives et culturelles ont été annulées. Des grands magasins ont décidé de garder portes closes et cheminots et postiers ont suspendu leur grève prévue face à la crise du coût de la vie. Et puis à peine le décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II annoncé, des voix se sont élevées ce vendredi pour appeler à renoncer à la monarchie en Australie. « Aujourd'hui n'est pas un jour pour la politique », a simplement répondu le Premier ministre australien Anthony Albanese. Vous dire aussi que le drapeau de l'ONU a été abaissé à mi-mai au Palais des Nations à Genève en hommage à la reine Elisabeth II. Décédée, on le rappelle hier, un dispositif similaire a été pris dans tous les sites onusiens dans le monde, a dit ce matin à la presse un porte-parole. La mort de la souveraine britannique ouvre ainsi une longue période de deuil pour la famille royale, une période qui va durer jusqu'à 7 jours après les funérailles d'Elisabeth II, dont la date reste encore à préciser, a indiqué ce matin le palais de Buckingham. Et puis ce matin, à Berne, dans son bureau du Palais fédéral, le président de la Confédération a rendu hommage à la reine Elisabeth II. Ignazio Cassis l'a comparé à un compas qui permettait de lire le monde. Avec son décès, le monde perd un repère, a-t-il notamment affirmé. Ignazio Cassis a été l'un des derniers chefs d'État à avoir rencontré la reine ce printemps.
J'ai eu cette grande honneur, en effet, de la rencontrer le mois d'avril cette année dans le château de Windsor où elle est née et elle portait même le nom Windsor dans sa famille. Donc, elle était à la maison. Et c'est la première chose qu'elle a voulu souligner dans la rencontre. Bienvenue chez moi, c'est ma maison, c'est où je suis né, c'est où j'ai grandi, c'est où j'ai joué avec les autres enfants. Et ses yeux brillaient de joie de vie alors qu'on savait qu'elle était déjà fragile et âgée, c'est clair. Mais c'était une rencontre qui aurait dû durer 20 minutes et qui finalement a duré 40 minutes. Donc il y avait un plaisir de sa part de pouvoir de nouveau rencontrer en bonne santé des invités.
Des propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral Serge Jubin. Le Conseil fédéral doit encore décider qui représentera la Suisse aux obsèques de la reine Elisabeth II. Et la Suisse félicite le nouveau roi Charles III comme le protocole le prévoit, a encore dit ce matin Ignazio Cassis. On poursuit ce journal avec du sport. Tennis, on jouait les demi-finales de l'US Open la nuit dernière. La numéro 1 mondiale, la polonaise Iga Świątek, s'est imposée face à la biélorusse Arina Sabalenka 3-6, 6-1, 6-4. Dans l'autre demi-finale, la tunisienne et 5e mondiale Ons Jabeur s'est quant à elle défaite de la française Caroline Garcia en 2-7. La finale de rêve donc entre les deux meilleures joueuses du moment opposera donc Iga Świątek à Ons Jabeur. Cet ultime match aura lieu demain samedi à 22h, heure Suisse à New York. Football, le FC Bâle a souffert hier au Parc Saint-Jacques dans la première journée de Conference League face aux champions d'Arménie. Les Rhénans ont néanmoins assuré l'essentiel en battant le Pionic Erevan 3-1. En Europa League, l'échelon supérieur, le FC Zurich n'a pas souffert autant qu'il pouvait le craindre pour son entrée dans la compétition. Vaillant, le champion de Suisse en titre, s'est néanmoins incliné 2-1 face au leader de la Première Ligue. Zurich poursuivra son aventure européenne jeudi prochain en Norvège face à Bodø Glimt, qui a fait match nul 1-1 hier à Eindhoven.
En football toujours, Yves, le FC Aigle sera à la fête ce week-end.
Et oui, le club chablaisien fête ses 125 ans d'existence en 2022. Ce jubilé intervient au même moment qu'un renouvellement complet ou presque du comité. En place depuis le 1er septembre, les nouveaux dirigeants aiglons entendent redorer le blason d'une équipe qui, après avoir évolué en 2e Ligue Inter en 2017, milite désormais en 3e Ligue Vaudoise. Pour ramener la formation à un niveau correspondant à son glorieux passé, l'effectif de la première garniture a été presque totalement renouvelé. Gros changement aussi dans la gestion du club. Actifs et juniors seront désormais sous la même entité. Les ambitions sont donc clairement affichées, comme nous l'explique le président du FC Aigle, Marco Caravaglio.
Oui, alors cette envie est clairement affichée. Alors c'est vrai que les trois premiers matchs ne se sont pas passés comme nous l'espérions, bien sûr. Mais il faut savoir que nous avons renouvelé la première équipe à raison et à hauteur de 80% à peu près. Donc l'équipe ne se connaît pas encore comme il faut, mais là ça commence à tourner. J'en veux pour preuve qu'hier soir nous avons gagné un coup d'audace 3-2 contre Azzurri Lausanne, qui vient de descendre de 2e Ligue Inter.
Marco Caravaglio répondait à Ludovic Turin. Depuis le début de la saison, le FC Aigle affiche un bilan mitigé d'une victoire, un nul et une défaite. Pour ce week-end festif, la première garniture accueillera demain le CS La Tour de Paix.
L'actu en continu, radiochablais.ca.